La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. La philosophie réaliste a-t-elle un nouveau visage au XXe siècle? On pourrait le penser. Jacques et Raissa Maritain vont écouter Bergson au Collège de France en 1900. Et en 1908, c'est la rupture. Aujourd'hui, une explication. Claire Bressolette vous propose de vous présenter la pensée de Jacques Maritain. Elle est passionnée de cet auteur, d'abord par filiation. Son père, Michel Bressolette, décédé en 2008, faisait partie du cercle Jacques Maritain et l'a emmené, petit enfant, dans la baraque des petits frères de Foucault, à côté des dominicains de Rangueil. Filiation, parrainage, et puis, à l'âge adulte, passion pour cette rigueur conceptuelle et pour ce philosophe finalement assez oublié et complètement absent de la scène philosophique actuelle. L'enjeu de ses émissions, c'est sa redécouverte et à travers lui, la redécouverte de ce grand courant de philosophie réaliste initié par Aristote, relayé par saint Thomas d'Aquin et par Maritain. Nous allons commencer notre grand voyage dans l'espace maritainien par le départ. Le départ, c'est Bergson. Trois séances, trois séries autour du dialogue entre Bergson et Jacques Maritain. Bergson, figure incontournable. Il est né le 18 octobre 1859 et il meurt le 4 janvier 1941. Jacques Maritain, né le 18 novembre 1882 et meurt le 28 avril 1973 à Toulouse. Un aîné, un fils, une génération de différence. Bergson a marqué toute la philosophie du XXe siècle. Les philosophes comme Merleau-Ponty, Jean Kélévitch, Deleuze, Chevalier, Canguilhem, Lavelle, Leroy, Lévinas, Sartre sont passés par le bergsonisme qui fascine. Qu'est-ce que le bergsonisme? Quand en 1900, sous l'inspiration et la conduite de Peggy, Jacques et Raissa Maritain vont écouter les cours de philosophie de Bergson au Collège de France, Bergson a déjà plusieurs œuvres à son actif. En 1889, il a publié « Essais sur les données immédiates de la conscience ». En 1896, « Matière et mémoire ». Il est connu pour s'opposer au positivisme. Qu'est-ce que le positivisme? Un nom, Auguste Comte. Auguste Comte va cristalliser finalement tout un mouvement qui dit que la science va être le lieu de la vérité parce que c'est vérifiable, c'est empirique. Pour Auguste Comte, cela se traduit au plan philosophique par les trois âges. Pour lui, il y a l'âge mythique, relayé ensuite par l'âge de la théologie, puis par l'âge de la science. Et vous le devinez, le progrès va vers l'âge de la science. Donc on a une idée finalement assez condescendante, voire un peu de mépris, vis-à-vis de la philosophie et de la métaphysique. Cette vision s'est répandue. Et à côté du positivisme, vous avez le scientisme, l'empirisme, qui sont caractérisés par des données philosophiques précises. Je vais en donner quelques-unes. La première, c'est la notion de déterminisme. Pour ceux qui ont encore leur année de première en tête et qui ont lu du Émile Zola, vous vous souvenez que les héros, les Rougon-Macquart, sont déterminés par deux influences. Celle de la race, donc du gène, et celle du milieu. Même si le milieu peut être prégnant sur la race et la génétique, comme dans le rêve où Angélique, finalement, qui est de Rougon-Macquart, s'améliore, c'est quand même cette croisée des deux déterminismes qui spécifie l'être humain. Au fond, dans le déterminisme, on trouve une idée de destin et finalement d'écriture déjà préétablie de ce que va être la vie d'un homme. D'une certaine manière, c'est un retour au fatum latin, c'est-à-dire à cette écriture dans les étoiles des destinées humaines. Et pour Maritain, cette notion de déterminisme n'est pas compatible avec le christianisme, qui, lui, apporte une rupture radicale avec la personne et lui est associée la notion de liberté. Et on sort une fois pour toutes du fatum à l'antique. On voit déjà que pourra se dessiner un point de désaccord entre Henri Bergson et Jacques Maritain, même si Bergson va fasciner Jacques Maritain parce que Bergson s'oppose à ce positivisme, à ce comptisme, à ce scientisme et à ce déterminisme. Une autre idée propre à ces courants du XIXe siècle, c'est celle de la causalité, c'est-à-dire que un effet engendrera telle conséquence, une cause engendrera telle conséquence, un effet sera produit par telle cause. On a donc un enchaînement très logique, très immédiat, très mécanique, pour avancer un mot qui sera important dans la philosophie de Bergson, qui, elle, s'opposera justement à tout ce qui est automatique et mécanique. Bergson va publier en 1907 une autre œuvre qui sera une œuvre majeure, l'évolution créatrice. Et on est juste avant la séparation radicale entre Bergson et Maritain. Cette séparation aura lieu après la conversion des Maritains. Imaginez le jeune couple Maritain complètement désemparé. Nous sommes en 1905 et voilà que ce jeune couple s'assied sur un banc du Jardin des Plantes. Jacques Maritain vient d'avoir l'agrégation à la philosophie, il est arrivé sixième et ce jeune couple ne trouve pas de sens à la vie. Non seulement le positivisme envahit la philosophie, mais la Sorbonne remplace la métaphysique par l'histoire. Et vous connaissez les diatribes de Peggy contre l'historicisme. Et ce jeune couple se dit, si nous ne trouvons pas de sens à notre vie, ben nous donnerons la mort, purement et simplement. Et cependant, ils sont des adeptes de Bergson. Ils vont avec assiduité au Collège de France, écouter ses cours. Pour Maritain, Bergson est quelqu'un qui donne une bouffée d'oxygène, quelqu'un qui redonne sens et qui réouvre la philosophie sur la métaphysique. Et toutefois, le malaise reste entier. Qu'est-ce qui va permettre au couple Maritain de trouver sens et petit à petit de s'éloigner de Bergson? Tout simplement la rencontre avec Léon Blois. Les Maritains vont commencer par lire La femme pauvre. Puis, subjugués par cet écrit, vont écrire à l'auteur qui les invite. Et la rencontre se fait en haut de la butte de Montmartre. Ce jeune couple monte, gravit l'escalier. Et là, ils découvrent une cohérence totale entre la foi et la manière de vivre. Parce qu'au fond, Maritain est anarchiste. Sur ses cahiers d'écoliers de Louis le Grand, de Henri IV, pardon, on trouve sur les pages de garde souvent deux colonnes ou deux rubriques qui le déterminent, la partie philosophie et la partie poésie. C'est poète, c'est Rimbaud, bien sûr. Et c'est philosophe, oh ben c'est Proudhon. C'est Marx, la propriété c'est du vol. C'est l'anarchisme. Maritain n'est pas un chrétien engagé, il est éduqué dans un milieu protestant, libéral, mais c'est d'abord un anarchiste convaincu de la justice sociale. Il faut une justice sociale, il faut lutter contre la pauvreté, et à ce titre-là, il suivra son ami Agnès Picari pour aller militer en faveur d'Alfred Dreyfus et il séchera les cours, ce que nous retrouvons dans les archives où le bon élève Maritain est fustigé pour avoir séché les cours au nom de son militantisme.
Thank you.
philosophie réaliste, Claire Bressolet.
La rencontre avec Lamblois est décisive et voici comment Maritain la relate. Le 25 juin 1905, deux enfants de 20 ans montaient l'escalier sempiternel qui grimpe jusqu'au Sacré-Cœur. Ils portaient en eux cette détresse qui est le seul produit sérieux de la culture moderne et une sorte de désespoir actif éclairé seulement, ils ne savaient pourquoi, par l'assurance intérieure que la vérité dont ils avaient faim et sans laquelle il leur était presque impossible d'accepter la vie, un jour leur serait montrée. Une sorte de morale esthétique les soutenait faiblement, dont l'idée du suicide. Après quelques expériences à tenter, trop belles sans doute pour réussir, semblait offrir l'unique issue. En attendant, ils se nettoyaient l'esprit grâce à Bergson, des superstitions scientistes dont la Sorbonne les avait entretenues. Mais en sachant bien que l'intuition bergsonienne n'était qu'un trop inconsistant refuge contre le scepticisme logiquement entraîné par toutes les philosophies modernes. Au demeurant, ils tenaient l'Église, cachée à leur vue par d'ineptes préjugés et par les apparences de beaucoup de gens bien pensants, pour le rempart des puissants et des riches, dont l'intérêt aurait été d'entretenir dans les esprits les ténèbres du Moyen-Âge. Ils allaient vers un étrange mendiant qui, méprisant toute philosophie, criait sur les toits la vérité divine et, catholique intégralement obéissant, condamnait son temps et ceux qui ont leur consolation ici-bas avec plus de liberté que tous les révolutionnaires du monde. Ils avaient terriblement peur de ce qu'ils devaient rencontrer. Ils n'avaient pas encore fréquenté de génie littéraire et c'est bien autre chose qu'ils allaient chercher. Pas une ombre de curiosité n'était en eux, mais le sentiment le plus propre à emplir l'âme de gravité, la compassion pour la grandeur sans refuge. Ils traversèrent un petit jardin d'autrefois, puis entrèrent dans une humble maison aux murs ornés de livres et de belles images, et se heurtèrent d'abord à une sorte de grande bonté blanche dont la noblesse paisible impressionnait et qui était Madame Lamblois. Ces deux fillettes, Véronique et Madeleine, les contemplaient de leurs grands yeux étonnés. Lamblois semblait presque timide. Il parlait peu et très bas, essayant de dire à ces deux jeunes visiteurs quelque chose d'important et qui ne les déçut pas. Ce qu'il leur découvrait ne peut se raconter. La tendresse de la fraternité chrétienne et cette espèce de tremblement de miséricorde et de crainte qui saisit en face d'une âme marquée de l'amour de Dieu. Blois nous apparaissait tout le contraire des autres hommes qui cachent des manquements graves aux choses de l'esprit et tant de crimes invisibles sous le badigeonnage soigneusement entretenu des vertus de sociabilité. Au lieu d'être un sépulcre blanchi, comme les pharisiens de tous les temps, c'était une cathédrale calcinée, noircie. Le blanc était au-dedans, au creux du tabernacle. D'avoir franchi le seuil de sa maison, toutes les valeurs étaient déplacées, comme par un déclic invisible. On savait, ou on devinait, qu'il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints, et tout le reste devenait crépusculaire. Si vous voulez retrouver cette page, elle est dans les œuvres complètes de Jacques et Raissa Maritain, au tome 3, page 1021-1023. Et il est important d'entendre ce texte pour plusieurs raisons. D'abord la plume de Jacques Maritain, qui est un écrivain. Ensuite, le tournant que Lamblois représente dans la vie des Maritains, puisque le 11 juin 1906, ils sont baptisés à Montmartre et leur parrain est Lamblois. Et à partir de cette découverte du christianisme et de cette conversion, Jacques et Raissa Maritain sont comme une flèche dans un carquois. Pour être les apôtres des temps modernes et trouver finalement leur vocation dans l'apostolat du thomisme, il a fallu ce temps d'écoute de Bergson et puis cette prise de distance vis-à-vis de ce qui restera leur ami, celui qui restera leur maître et celui qui restera finalement un maître à penser, un philosophe et déjà, finalement, une aimantation spirituelle. Avant de trouver leur véritable vocation, les maritains vont passer quelques mois d'aridité. Ils partent à Heidelberg au mois d'août 1906 et c'est simplement au début de 1909 que Raïssa va commencer à lire la Somme de saint Thomas d'Aquin, que Maritain lira en 1910 et qui trouvera dans cette somme sa vocation. Et c'est en 1913 qu'il écrit son premier livre, sa première œuvre, qui est une mise au point de la philosophie bergsonienne. Alors, il faut bien comprendre les enjeux de la philosophie bergsonienne. Je pense que plusieurs d'entre vous ont entendu parler de la durée de Bergson et de l'intuition. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ces deux éléments qui caractérisent la philosophie de Bergson ? Pour vous faire comprendre ce qu'est la durée, je vais citer Bergson lui-même dans un de ses exemples qu'il aimait prendre au Collège de France, celui du sucre. Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. Ce petit fait est gros d'enseignement, car le temps que j'ai à attendre n'est plus ce temps mathématique qui s'applique aussi bien le long de l'histoire entière du monde matériel, lors même qu'elle serait étalée tout d'un coup dans l'espace. Il coïncide avec mon impatience, c'est-à-dire avec une certaine portion de ma durée à moi, qui n'est pas allongeable ni rétrécissable à volonté. Ce n'est plus du pensé, c'est du vécu. Au temps spatialisé, et donc quantifiable, mathématisable et mesurable, Bergson va opposer la durée. Quant à l'intuition, cela vaut la peine de s'y arrêter.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Durée et intuition, les deux piliers de la philosophie bergsonienne. Qu'entendre par intuition ? C'est compliqué parce qu'elle a plusieurs sens. On parle d'une intuition, c'est-à-dire une divination, comme dira Maritain,